aujourd'hui Spartacus et la révolte des gladiateurs.
Quel genre de personnage est le chef de ses esclaves ?
J'ai entendu son nom, Spartacus.
Spartacus ?
D'histoire. C'est parce qu'ils n'avaient rien d'autre à perdre que leur chaîne et la certitude de mourir un jour dans une arène qu'en 73 avant notre ère, une poignée de gladiateurs a déclenché la plus grande révolte d'esclaves de l'histoire. Derrière l'un d'entre eux, Spartacus, c'est toute une armée qui pendant 2 ans a défié et menacé l'Empire romain en infligeant à ses légions des défaites humiliantes. Jamais dans l'histoire on n'avait vu des esclaves tenir tête pendant si longtemps à un des états les plus puissants du monde. Et on comprend pourquoi les historiens romains ont si peu et si mal parlé de l'épopée de Spartacus et pourquoi aussi, beaucoup plus tard, elle a servi d'exemple à d'autres révolutions et inspiré à Stanley Kubrick, un des plus célèbres péplums de l'histoire du cinéma.
Esclaves, vous voici à l'école de gladiateurs de Lentulus Batuatus. Des maîtres vous apprendront à vous battre en combat singulier jusqu'à la mort. Un gladiateur est une sorte d'étalon. Il demande 1000 petits soins. Donc vous serez huilé, baigné, rasé, massé. Vous aurez droit à la boucle des gladiateurs, Marcellus, montre. Regardez. Il peut en être fier. Vous êtes les bienvenus ici. Et puisse la fortune sourire à la plupart d'entre vous. C'est tout.
Comment t'appelles-tu, esclave ?
Spartacus.
Gérard Paco, bonjour.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Ça te fait plaisir. C'était un extrait, on vient de l'entendre, du Spartacus, donc de Stanley Kubrick, qui est un film grâce auquel, il faut bien le dire, beaucoup de gens ont découvert ce qui a été la plus grande révolte d'esclaves de l'histoire, et puis celui qui l'a conduite il y a plus de 2000 ans, Spartacus auquel vous venez de consacrer un roman. Gérard Paco, peut-être parce qu'au fond, on sait peu de choses sur lui, et notamment sur sa jeunesse.
Très peu, effectivement. On sait qu'il est né en Thrace. La Thrace, c'est une partie de l'actuelle Bulgarie. On pense, selon les récits de Florus, qu'il était fils de roi, mais d'un roi très local, et qu'il a été élevé avec peut-être une certaine culture. On ne sait pas s'il savait lire. Très jeune, les armées romaines sont arrivées dans son pays. Il a été enrôlé, ça c'est avéré par l'histoire romaine. Il a été enrôlé comme soldat romain et il semblerait qu'il ait eu un différend. Alors certains racontent qu'il aurait évité le viol à une dame qui est devenue sa femme, à une personne qui est devenue sa femme, Arcanoé, et que parce qu'il aurait tué des soldats romains entre lui et cette femme, il aurait été condamné à mort et envoyé donc en esclavage par la suite, racheté par un laniste pour devenir gladiateur.
Alors, les lanistes, c'était ceux qui dirigeaient les écoles. Exactement. De gladiateurs. Ils s'appelaient Lentulus Batiatus.
Exactement.
Cette école de gladiateurs se trouvait à côté de Capoue, donc oui. Ils se sont soulevés. Alors, c'était pour la plupart d'entre eux, ces gladiateurs, c'était des esclaves.
Oui.
Pas tous, hein, mais
pas
la plupart
tous,
d'entre eux. Et dans un pays qui comptait énormément d'esclaves, Gérard Paco.
Oui. Selon les historiens, entre 60 et peut-être 80%, enfin c'était absolument énorme. On arrive à une époque de l'histoire romaine où les Romains ont presque conquis la totalité du bassin méditerranéen, et chaque fois qu'ils sont victorieux, eh bien les vaincus sont envoyés en esclavage. Évidemment, ça fait une masse considérable de gens qui arrivent, qui sont soumis à une loi terrible, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus des êtres humains.
Ce qui explique d'ailleurs les révoltes, parce que avant celle de Spartacus, qui est la plus connue, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, notamment en Sicile, il y en a eu deux qui ont été importantes. L'une qui était, je crois, 66 ans avant Spartacus, c'était en 139 avant Jésus-Christ. Il y a un Syrien qui s'appelait Eunus.
Absolument. Et lui, il a résisté 8 ans.
8 ans.
Hein. 8 ans. Il a aussi décousu les armées romaines. Et il a fallu vraiment de gros efforts. Mais c'était des foyers qui se réveillaient. Et puis, il y en a une autre entre 104 et 100 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire une trentaine d'années auparavant, qui a été moins importante, mais tout de même. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. La première a commencé en 501 avant Jésus-Christ.
Ouais. Alors, la plus importante de toutes, bien entendu, celle dont nous allons parler, c'est celle de Spartacus, qui commence donc à Capoue, ou dans la région de Capoue, en 73 avant Jésus-Christ.
Les esclaves se sont révoltés. Ils ont fait Marcellus et peut-être d'autres avec lui.
Quelqu'un appelle la garde. Va à Capoue. Alerte la garnison, je n'ai guère confiance en eux.
Mettez-vous en ligne, vite!
Partis de Capoue, ils ont envahi toute la compagnie, obligeant les autres esclaves à se joindre à eux. Volons, pillons, incendiant tout sur leur passage, puis ils se retranchèrent dans leur camp sur les flancs du Vésuve. Et leur nombre augmente chaque jour. Je propose leur appel immédiat de Pompée et de ses légions d'Espagne.
Je compte seulement 500 hommes et je remettrai ces esclaves dans droit.
Je ne dis pas de bêtises.
Je trouve cela très imprudent. Il y a plus d'esclaves à Rome que de Romains. La garnison absente, qui les empêcherait de se soulever à leur tour?
Alors en fait, la révolte qui se déclenche à Arpacon en 73, c'est une poignée d'esclaves, mais très vite ça va devenir une armée. Mais au début, on la prend pas tellement à Rome, on la prend pas tellement au sérieux, d'autant plus, il faut le rappeler, la situation de, j'allais dire l'Empire, non c'est encore la République romaine, de la République, n'est pas bonne. Elle a fort affaire à l'extérieur, loin, il y a en Espagne, oui. Il y a également dans l'actuelle Turquie.
Alors effectivement, en Turquie, Lucullus se bat contre Mithridate, qui était un roi extrêmement intelligent.
C'est le roi du pont.
Le roi du pont, oui. Et qui a été capable de rallier tous les souverains de la région. Et puis, en Espagne, il y a un Romain, qui s'appelle Sertorius, qui défie le pouvoir romain en ayant tenté de créer un pays pour lui, en Espagne. Et bien sûr, on a envoyé là-bas le meilleur des généraux, Pompée, qui a bien du mal, et qui n'arrive pas à vaincre Sertorius. D'ailleurs, Sertorius ne sera vaincu que parce qu'il aura été assassiné.
C'est encore fragile, hein, cette République à l'époque. Oui. On est à quelques années de l'Empire, mais elle est assez fragile. Et cela devant, donc, je l'ai dit tout à l'heure, une poignée de gladiateurs qui brusquement deviennent une armée. Comment est-ce que ça a été possible? Comment est-ce qu'en si peu de temps, cette petite révolte, une espèce de fait divers, devient une véritable guerre?
Et pour comprendre ce qui s'est passé en très très peu de temps, il faut comprendre que Rome en était arrivé à une situation dramatique. À force de conquérir des pays, la richesse était devenue telle dans Rome que les gros propriétaires terriens s'étaient appropriés la quasi-totalité du pays, dépossédant une foule de petits propriétaires qui étaient devenus des bouviers ou des gens qui avaient beaucoup de mal à nourrir leur famille et qui n'étaient pas tous des esclaves. Hein. Il y avait des esclaves. Alors, pour les gros propriétaires terriens, il y avait des centaines d'esclaves qui exploitaient leurs terres, et à côté, des tout petits propriétaires qui étaient dans la misère. Et bien sûr, Spartacus leur apportait un message de délivrance. Venez avec moi, c'est une situation indigne qui vous est faite, je vais vous aider à vous délivrer.
Et puis alors, c'est comme ça qu'il s'est bâti, il s'est construit au pied du Vésuve, au début.
Ils n'étaient pas encore très nombreux, là.
Mais plus tard, ça atteindra jusqu'à 120 000 hommes. Alors, pourquoi est-ce que c'est Spartacus? Parce qu'il n'était pas seul, hein, vous le rappelez. Il y avait un Gaulois aussi qui s'appelait Crixos. Oui. Hein, mais c'est rapidement Spartacus qui va se détacher vis-à-vis des autres. Pour quelle raison?
Vous savez, on n'a pas de portrait vrai de Spartacus, parce que les Romains, comme vous le disiez très justement, ont eu honte de cet épisode. Mais quand même, Florus et Appien disent que c'était, surtout Appien, disent que c'était certainement un bon tacticien, un bon général. C'est certainement un homme qui avait des capacités d'organisation exceptionnelles. Parce que, essayons d'imaginer une horde, comme je l'appelle, de 100 000 personnes traversant l'Italie, devant se nourrir tous les jours, et en même temps, la création d'une véritable armée capable de défier et de détruire les légions romaines, il fallait des qualités d'organisation exceptionnelles.
Et puis il y avait aussi le qualité stratège, vous le disiez d'ailleurs, dès la première bataille, Spartacus fait remporter donc la victoire à ses gladiateurs contre 6 cohortes donc qui ont été envoyées par Rome et qui ont été battues au pied du Vésuve.
Allons, debout, comme il s'y est un noble romain.
Quel est ton nom?
Marcus Glabrus. Commandant de la garnison de Rome.
Regarde, Glabrus. Tu reconnais cet objet? Le symbole du Sénat. Toute la puissance de Rome. Apporte ça à ton Sénat. Qu'ils sachent bien que ce bâton cassé, c'est tout ce qu'il reste de la garnison de Rome. Dis-leur que nous ne voulons rien de Rome. Rien. Excepté notre liberté. Tout ce que nous voulons, c'est quitter ce pays de malheur. Nous partons vers le sud et la mer.
Et nous taillerons en pièces toutes les armées qu'ils enverront contre nous. Restez à cheval.
Vous écoutez France Inter, aujourd'hui Spartacus. Alors c'était donc la première victoire de l'armée de Spartacus sur Claudius Glaber, Gérard Paco, et non pas, comme on vient de l'entendre dans cet extrait de film, Marcus Glabrius. Alors Spartacus, dont on vient de l'entendre aussi dans cet extrait, dont on ne sait pas très bien au fond ce qu'il veut. Une fois qu'il a constitué cette armée, quand on voit les parcours qu'il a fait en Italie, il part vers le nord, et puis redescend complètement à la pointe sud de l'Italie, quel est l'objectif? Est-ce qu'il s'agit, comme on vient de l'entendre, de s'enfuir, de quitter l'Italie avec ses esclaves?
Dans un premier temps, certainement. Je pense que dans un premier temps, il avait proposé à ce groupe de les amener hors des frontières et pour qu'ils regagnent chacun leur pays respectif. Et puis, il a été confronté à un hiver terrible. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans cette région du Nord, puisqu'il approchait de la Gaule cisalpine. Il a fait demi-tour, sans qu'on sache très bien pourquoi.
Il est monté jusqu'à Modène, hein, voilà, jusqu'à la plaine du Pô, hein, à partir du Vésuve.
Voilà, jusqu'à Modène. Et ça faisait quand même une trotte. Hein.
Ouais.
Et il redescend, peut-être aussi parce qu'il avait plus de chances de nourrir cette horde. On trouvait peut-être plus de provisions au sud qu'au nord de l'Italie. Il ne faut pas oublier que l'Italie est un pays montagneux, très montagneux. Et bon... peut-être qu'aussi que son projet a varié. Il semble bien qu'il ait eu envie de passer en Sicile. Il semble bien qu'il ait eu envie d'aller au-delà de la Sicile. Mais on le racontera peut-être tout à l'heure, il va être confronté à des difficultés. On n'a pas de renseignements très très précis. En tout cas, il a peut-être eu, simplement dire un mot, il a peut-être eu l'idée d'aller conquérir Rome, mais ça n'a pas duré très très longtemps parce que il a dû penser qu'il ne réussirait pas.
Mais pourquoi? Parce que quand même, il y aura une deuxième, enfin il y a même deux légions, parce que oui. Après on va envoyer six cohortes, bon, pas grand chose, hein, commandé par un type qui est pas fort. Ensuite on envoie deux consuls carrément contre lui,
oui, oui.
Et il va encore les battre. Pourquoi a-t-il peur de prendre Rome?
Mais parce que probablement justement c'était, en plus d'un stratège, c'était un homme qui était un politique et il avait très bien compris ce qu'était Rome et que lui ne pourrait jamais diriger Rome.
Ça fait penser un peu à Hannibal.
Peut-être.
D'ailleurs, c'est marrant parce qu'Hannibal s'est perdu à Capoue alors que c'est là qu'a commencé la révolte.
Oui, tout à fait.
Alors bon, il va battre à nouveau ces deux légions. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus important. On a quand même du mal à comprendre avec quelles armes. Et là, il est en face quand même d'une armée de plus en plus importante au fur et à mesure que la guerre se poursuit. Ce sont des troupes de plus en plus nombreuses. Une armée de métiers. Comment expliquer
cela? Oui, mais il faut dire que les très bons soldats étaient avec Lucullus et avec Pompée.
En Espagne et au
Moyen-Orient. Mmh. Et on peut penser que les soldats qui étaient restés là étaient un peu amollis par l'inactivité. En tout cas, c'est ce que pense Crassus plus tard. On en parlera. Et probablement qu'il avait quand même des moins bonnes légions en face de lui. Mais en même temps, il avait des gens avec lui extrêmement déterminés, qu'il avait réussi à entraîner au combat. Et vous savez, les gladiateurs, c'était des bons soldats. Et c'était des gens qui étaient capables de défendre leur vie avec beaucoup de vigueur.
Vous avez dit qu'au fond, ils se déplaçaient quand même dans toute l'Italie.
Oui.
Comment se comportaient-ils, Gérard Paco, avec la population? Est-ce qu'ils étaient d'abord bien accueillis et il fallait bien qu'ils se nourrissent? Ils étaient jusqu'à 120 000 hommes quand même.
Mais ils ont beaucoup pillé, malheureusement, et je crois que Spartacus n'était pas toujours d'accord avec ça. En tout cas, on peut l'imaginer assez bien. Ils ont essayé de convaincre les populations de les suivre. Ils n'y sont pas toujours arrivés, semble-t-il. Et parce qu'il y avait même des esclaves qui préféraient rester esclaves que de risquer, évidemment, la mort, puisque c'était la mort à tous les coups. Je crois qu'ils ne se sont pas bien comportés du tout, mais pouvaient-ils bien se comporter? La vraie question, elle est là. Comment faire?
Comment faire, surtout lorsque Rome, avec trois défaites humiliantes, jusque-là et même un peu plus, finit par confier une armée considérable à un personnage beaucoup plus dangereux pour Spartacus que les généraux qu'il avait déjà battus.
Le Sénat fait savoir à tous les citoyens de la République que Marcus Licinius Crassus a été élu aujourd'hui commandant en chef des armées romaines.
Vous promet la destruction de l'armée d'esclaves et la restauration de l'ordre sur toute l'étendue de nos territoires. et je promets de ramener Spartacus vivant pour lui faire subir le châtiment que vous voudrez lui infliger, ou sinon, de vous apporter sa tête.
Gérard Paco, donc, c'est Crassus. C'est un personnage qui est moins connu, bien sûr, à cette époque que des contemporains de Crassus, comme César, comme Pompée, comme Antoine, plus tard comme Auguste. Pourtant, c'est un personnage très important auquel on confie, donc, ses armées chargées d'écraser Spartacus. Important et très ambitieux.
Très ambitieux et surtout, c'était l'homme le plus riche de Rome.
Oui.
Il avait une richesse colossale qu'il avait commencé à acquérir à l'époque de Sylla, c'est-à-dire quelques années auparavant. Pendant les proscriptions de Sylla, il avait récupéré les biens des gens proscrits, parce qu'il était du côté de Sylla. Mmh. Et en plus, comme il était un très bon gestionnaire et très intelligent, il avait des comptoirs dans tout le bassin méditerranéen, donc des informations de partout.
Mais c'est sa fortune qui défend un peu, alors, en attaquant.
Ah, il défend sa fortune et l'ordre établi. Et en plus, il a une ambition politique. Faut quand même pas oublier qu'il va être consul avec Pompée, avec César. Enfin, il a joué un rôle très très important. Et il n'a pas la gloire militaire. Alors, faut bien comprendre que tous les Romains rêvaient d'avoir la gloire militaire. Tous les hommes romains.
Ce qu'on appelait le triomphe après la victoire.
Et évidemment, le summum, c'était le triomphe après la victoire. Et Crassus n'était pas certainement un très bon général dans sa tête, en tout cas. Cependant, il a été un bon stratège avec des bons légats. Et donc, cet homme est investi par le Sénat, qui ne sait plus quoi faire, de tous les pouvoirs, du pouvoir d'impérator, et il va avec une fermeté.
Impérator, ça ne veut pas dire encore empereur, il faut le rappeler. On n'est pas dans l'Empire, on est dans la République.
L'impérium.
C'est l'impérium. Voilà.
C'est l'impérium, c'est-à-dire tout pouvoir sur l'armée. Les soldats, le chef de l'armée avait tout pouvoir sur les soldats. D'ailleurs, il y a une scène atroce que je décris dans le livre, c'est la décimation.
Oui, alors il faut expliquer, parce que c'est un homme extrêmement brutal.
Très violent.
Et à un moment donné, il y a deux de ses légions qui se trouvent en face de Spartacus, sont une fois de plus aussi écrasés par Spartacus, et alors un châtiment terrible quand les rescapés reviennent, Crassus les décime. Rappelez-nous ce que c'est que la décimation.
Ce châtiment n'existe, faut savoir qu'il n'existait plus depuis plus de 100 ans. Et Crassus l'a remis en vigueur. La décimation, ça consistait à prendre 500 soldats. On comptait 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Le 10e sortait du rang. On comptait jusqu'à 20, le 20e sortait du rang. On en prenait donc 10% d'une décimation. Et ces 10% étaient flagellés à mort par l'ensemble de la troupe. On les alignait nus et avec des fouets munis de plomb, on les tuait. C'était quelque chose d'absolument ignoble, Crassus a remis en vigueur cette peine dans son armée parce que les légionnaires avaient désobéi en allant trop vite au front, enfin, c'est une histoire.
Alors, Crassus, pendant ce temps-là, continue de poursuivre Spartacus. Qu'est-ce qui se trouve à ce moment-là, Gérard Paco?
Alors,
il va vers le sud,
vers
la pointe, vers la Calabre, vers la Sicile.
Avant, il s'arrête un petit peu à Régium, oui. Où il a essayé de bâtir quelque chose, de s'arrêter un petit peu. Et puis Crassus arrive, donc il file vers le Brutium, qui est la pointe de la botte de l'Italie, avec l'idée cette fois d'aller en Sicile.
Crassus. Pourquoi faire?
Alors. Justement, parce que il pensait que les révoltes serviles de Sicile, qui avaient été éteintes
précédentes,
pourraient se rallumer avec sa présence, et éventuellement peut-être, disent certains auteurs, de partir en Afrique. Mais en tout cas, passer d'abord en Sicile. Et là, évidemment, il est roulé dans la farine, on peut le dire, par les pirates, à qui il donne beaucoup d'argent pour transporter lui et toute sa...
Les Siciliens, hein, parce que c'était les seuls, il n'y avait pas de bateau, en fait. Il fallait un bateau.
C'était même pas des Siciliens, c'était...
Les Siciliens, c'est pas...
Non, la Cilice, c'est
oui, mais il paraît que c'était des pirates
Oui, c'était des pirates qui n'étaient pas d'origine de Sicile, vous avez tout à fait raison. Et Verres, qui est le propriétaire de Sicile à cette époque, va payer encore plus cher les pirates pour que les pirates ne viennent pas chercher Spartacus. Donc il se trouve emprisonné entre la mer et quelque chose de fabuleux que Crassus a bâti. Un énorme fossé qui barre la totalité de la pointe de l'Italie.
C'est énorme, oui.
Ah oui, c'est énorme. Mais vous savez, les légionnaires, quand vous en aviez 20 000 qui se mettaient au boulot, vous n'avez qu'à faire le compte, il y avait 32 kilomètres, vous divisez 32 000 mètres par 20 000, et finalement, ça fait 2-3 mètres par
légionnaire. Cela dit, c'est quand même étonnant, parce que il a réussi, malgré tout, Spartacus a réussi à s'enfuir.
Il a réussi à s'enfuir.
Mais ses troupes sont très amoindries, sa horde est malade, il fait froid, et
puis surtout, il sait plus que faire, au fond.
Il est désemparé.
Il est totalement désemparé. Parce qu'il n'y a pas d'issue, au fond, à ce combat qu'il mène déjà depuis presque 3 ans.
Il n'y a pas d'issue, sauf peut-être à revenir sur Rome. Et peut-être que là, il y a pensé. Et d'ailleurs, la dernière bataille de Syllarus contre Crassus n'a pas été une bataille facile pour Crassus. C'est-à-dire que, je crois que c'est Appien qui dit que la victoire aurait pu tourner du côté de Spartacus. Mais il a été blessé au début du combat, ça s'est avéré par les textes, à la cuisse. Il a combattu pendant quelques heures à genoux, ce qui est fabuleux. C'était un géant, hein, Spartacus. Hein. C'était pas Stanley Kubrick, hein, c'était un géant.
C'est Kirk Douglas, il est costaud. C'est Kirk Douglas dans le film de Kubrick.
Il est costaud, mais quand même, je crois que Spartacus était...
Ah bon, encore plus costaud.
Oui.
Mais en tout cas, cette bataille, on la voit justement dans le film. Alors le film commence à prendre pas mal de liberté avec la réalité, parce que, selon Kubrick, Spartacus continue de vivre jusqu'à ce qu'il soit crucifié. En réalité, on n'a jamais su, dans cette dernière bataille qui met un terme à cette guerre des gladiateurs, on n'a jamais retrouvé le corps de Spartacus sur le champ de bataille.
Non. Et d'ailleurs, si on avait retrouvé le corps de Spartacus, sa tête aurait été apportée au Sénat, car c'était la coutume à l'époque d'apporter la tête de votre adversaire dans un sac et de mettre ça au pied des sénateurs.
Et c'est justement ce que recherche Crassus.
Crassus aurait bien
devant
aimé.
Les 6000 prisonniers qu'il a fait dans cette dernière bataille de Spartacus.
Je suis chargé de vous lire ce message de votre maître, Marcus Licinius Crassus, commandant les légions d'Italie, obéissant à un sentiment de pitié. Nous décidons que vos vies seront épargnées à la seule condition que vous nous aidiez à identifier le corps ou la personne vivante de l'esclave Spartacus. Je suis Spartacus.
C'est moi, Spartacus.
Je suis Spartacus.
Je suis Spartacus.
C'est moi, Spartacus.
C'est moi, Spartacus.
Je suis Spartacus.
Tous les esclaves seront crucifiés des deux côtés de la voie. Je veux que cette route soit bordée de croix, d'ici à l'entrée de Rome. En avant !
En avant !
Alors je ne sais pas, Gérard Paco, si la scène dans laquelle les derniers soldats de Spartacus le défendent en affirmant tous qu'ils sont Spartacus, ce qui est une très très belle image, film de Kubrick, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, Crassus a fait crucifier 6000 prisonniers. Ça, c'est énorme. Tout le long de la voie Appienne au sud de Rome, entre Capoue et Rome.
Oui, enfin pratiquement, oui. C'est avéré. C'est quelque chose d'horrible, mais enfin, faut imaginer que, oui, il y a eu 6000 personnes qui ont été laissées en proie pour les oiseaux de proie, pour servir d'exemple.
C'est sinistre, c'était terrible, c'était la peine réservée, je crois, justement, aux esclaves insurgés, hein. C'est aussi, c'était la plus grande, guerre, au fond, servile, on peut le dire, de l'histoire.
Oui.
C'est aussi la dernière, il y en a jamais eu ensuite à Rome. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y en a eu quelques autres, mais, sous l'Empire aussi, mais moins, et on en a beaucoup moins parlé. Je pense que les mœurs se sont améliorées concernant les esclaves. Et il faut dire tout de même que
les Romains ont accordé la citoyenneté à beaucoup plus de gens ensuite. Hein,
exactement. Ça avait commencé d'ailleurs sous Marius, avant Spartacus. Hein. C'était vraiment un moment charnière. Hein.
Au fond, elle a servi à quelque chose, cette révolte, d'une certaine manière. Elle a amélioré le sort, peut-être, des esclaves.
Probablement. Elle a déclenché beaucoup de violences pendant les 30 à 40 années qui ont suivi, mais qui étaient des violences qui ont permis de régler une partie des problèmes. On peut dire, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas, ça a débouché sur quand même la dictature impériale, mais avec des gouvernements tout à fait différents de la population romaine.
En tout cas, elle est servie aussi à la destinée ou aux ambitions de Crassus, qui est devenu consul, cela dit, ensuite il a disparu de la circulation, je crois qu'il est mort.
Non, il n'a pas disparu de la circulation.
Il est mort peu de temps après.
Il est mort tragiquement, il est mort en guerre contre les Parthes, et il a été décapité. Il a voulu aller conquérir le triomphe en faisant la guerre aux Parthes, et il va mourir, son fils va mourir avec lui, là. On va amener la tête de son fils d'abord, et après il va décapiter.
Alors on a très peu parlé ensuite, parce que les Romains, en fond, ça les gênait un peu de parler d'une guerre qu'ils avaient dû mener contre des esclaves, qui en plus leur avaient infligé des défaites humiliantes. Et au fond, il y a une espèce d'occultation qui se fait jusqu'au 19e siècle. Là, on commence à... Oui. Il y a des opéras qui sont faits sur Spartacus. Il y a la fameuse révolte des Spartakistes en Allemagne au début du 20e siècle. Il y a ce film aussi de Kubrick. Au fond, c'est une espèce de symbole. symbole, Spartacus.
Oui, oui. Spartacus a été récupéré comme symbole, certainement, symbole de la révolte pour la liberté. Et en même temps, d'ailleurs, que les frères Gracchus, que les fameux Gracchus, qui revendiquaient un petit peu des choses analogues, sauf qu'eux, ils étaient du côté de l'aristocratie et qui demandaient simplement plus de justice. Je crois qu'effectivement, au 19e siècle, dans les grands mouvements en partie révolutionnaires, et syndicaux d'ailleurs, eh bien Spartacus a été récupéré, puis un petit peu au XXe siècle aussi, avec notamment Kessler.
Oui, les écrivains. Kessler a écrit un livre où véritablement il met en scène, en prenant lui aussi des larges libertés avec l'histoire, un beau livre sur Spartacus. Oui. Écoutez, en tout cas, vous-même, Gérard Pacot, je vous remercie, mais vous-même, vous avez écrit donc un roman, qui vient d'être publié aux éditions du Félin, donc Spartacus, le gladiateur, et la liberté. Vous avez pu entendre des extraits, bien sûr, de Spartacus de Stanley Kubrick, on en a beaucoup parlé, avec Kirk Douglas, Laurence Olivier, qui joue le rôle du méchant Crassus, qui est un film distribué en vidéo, donc, par Universal. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Patrick Henry et Benjamin de la Gâtinais, documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, une réalisation de Anne Kobilac. Le programme de la semaine prochaine dans 2000 ans d'histoire, lundi et mardi, une histoire jamais encore traitée par les historiens, l'histoire de la beauté, sur laquelle notre invité de lundi, Georges Vigarello, vient d'écrire un livre. Mercredi et jeudi, Napoléon et les femmes. Enfin, vendredi, Romain Gary. Bonne fin de semaine à tous et à lundi. Il est presque 14h30, moins quelques secondes sur France Inter. L'heure de retrouver Musique Express avec Eric Oswald. Bonjour Eric.
Bonjour Patrice.